14h, temps universel, 15h à Paris, vous écoutez RFI. Florent Guignard est là, c'est l'heure du journal. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. À la une, la deuxième journée du deuxième mandat de Donald Trump à la tête des États-Unis commence à Washington. Et dans ce journal, nous reviendrons sur quelques-unes de ses premières décisions hier. L'expulsion de migrants clandestins, la sortie de l'accord de Paris sur le climat ou encore la grâce des émeutiers de l'attaque du Capitole il y a 4 ans. En signe de défi lancé au nouveau président des États-Unis, le russe Vladimir Poutine et le chinois Xi Jinping ont mis en scène ce matin leur entente cordiale lors d'un échange vidéo. Également dans l'actualité, une opération de l'armée israélienne en Cisjordanie qui a fait 6 morts et 35 blessés, bilan encore provisoire. Et puis en France, le budget de l'aide française au développement encore plus réduit que prévu. Dans 10 minutes après ce journal, autour de la question sur la seconde révolution quantique, avec Alain Aspect, le prix Nobel de physique 2022. Une messe pour commencer sa deuxième journée à la tête des États-Unis. Donald Trump se rend ce matin à la cathédrale de Washington au lendemain d'une prestation de serment placée sous le signe de Dieu qui l'aurait sauvé, a-t-il dit, pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Alors après son investiture hier, Donald Trump a signé d'innombrables décrets pour mettre en œuvre ses promesses. Un plan massif d'expulsion de millions d'immigrés clandestins, la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, sortie aussi de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que la Chine s'est empressée de condamner. Le président chinois Xi Jinping s'est d'ailleurs entretenu ce matin avec le président russe Vladimir Poutine. L'occasion pour les deux chefs d'État de rappeler leur alliance très cordiale, précisément au lendemain du retour de Donald Trump au pouvoir. Un appel vidéo largement mis en scène et relayé par la Russie. RFI Moscou, Anissa El Jabri.
Grand sourire, signe de la main de Vladimir Poutine à son homologue chinois et sans jamais s'adresser directement à Donald Trump. Ce message signé Moscou et Pékin qui lui est évidemment destiné. Le tandem va mieux que jamais.
Nous construisons nos liens sur la base de l'amitié, de la confiance et du soutien mutuel. Ces liens sont autosuffisants, indépendants des facteurs politiques internes et de la conjoncture mondiale actuelle. On peut dire avec certitude que les relations de politique étrangère, le travail conjoint de la Russie et de la Chine, jouent objectivement un rôle stabilisateur important dans les affaires internationales.
Pas un mot direct sur la guerre, mais cette allusion transparente du chef de l'État russe qui, depuis qu'il a lancé ses soldats à l'assaut de l'Ukraine, dresse constamment un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale.
Monsieur le Président, cette année, nous nous préparons à célébrer dignement le 80e anniversaire de la grande victoire. Sa mémoire est sacrée pour les peuples de nos pays. On ne peut pas laisser les idéologies du fascisme, du nazisme et du militarisme reprendre la tête. Il est important, en collaboration avec ceux qui partagent les mêmes idées, de garder et de défendre avec soin la vérité historique.
Officiellement, la Chine ne soutient pas l'assaut russe contre l'Ukraine et pose en puissance médiatrice. L'OTAN a de son côté accusé Pékin de jouer, je cite, un rôle déterminant dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Donald Trump, hier, a aussi levé les sanctions contre les colons extrémistes de Cisjordanie. Les colons israéliens, réaction de l'autorité palestinienne, cette levée des sanctions va les encourager à commettre davantage de crimes. En Cisjordanie aujourd'hui, 6 Palestiniens ont été tués, 35 autres blessés par l'armée israélienne qui mène une opération toujours en cours à la mi-journée. Par ailleurs, 15 mois après les attaques terroristes du Hamas contre Israël, le chef d'état-major de l'armée israélienne annonce sa démission en reconnaissant, dit-il, sa responsabilité dans l'échec de l'armée le 7 octobre 2023.
RFI Midi.
De nouveau civils, victimes de la guerre civile au Soudan. 16 personnes ont été tuées, 18 autres blessées lors d'un bombardement des paramilitaires contre un camp de déplacés au Darfour. Un camp par ailleurs frappé par la famine. Au Mali, les rebelles du Front de Libération de l'Azawad annoncent la libération d'un otage espagnol qui avait été enlevé il y a quelques jours entre l'Algérie et le Mali. Et les rebelles Touareg disent qu'ils vont le remettre à l'Algérie. En Corée du Sud, la première audience aujourd'hui du président du président destitué devant la Cour constitutionnelle qui doit confirmer cette destitution votée par les députés devant la Cour constitutionnelle. Ses partisans étaient nombreux à vouloir le défendre, quitte à s'en prendre aux journalistes. Reportage de Célio Fioretti.
NBC, Kotora! NBC, Kotora!
NBC dehors, la chaîne publique est devenue l'ennemi des partisans du président Yoon Suk-yeol. Réunis devant la Cour constitutionnelle où le président se défend aujourd'hui pour la troisième audience de son procès, ses soutiens fustigent les médias qu'ils accusent d'être responsables de la crise, comme l'explique cette femme.
Les médias coréens sont tous de gauche. NBC est sans doute le média le plus mensonger. Pourtant, ils fonctionnent grâce au fonds public, mais servent uniquement une idéologie de gauche. C'est à cause d'eux qu'on en est là.
Des mots, mais aussi des actes. Depuis dimanche, les journalistes des chaînes télé NBC, JTBC ou encore KBS sont frappés et voient leur matériel endommagé par les manifestants. Des violences rares en Corée du Sud que les manifestants commencent à accepter, comme cet homme.
Personnellement, je pense qu'ils méritent ce qui leur arrive. Avec tous leurs mensonges et leurs manipulations, je pense que NBC méritait ce qui est arrivé. Nous avons attaqué des journalistes poubelles, mais ils vont encore dire que ce sont des victimes.
Devant le tribunal, les journalistes coréens font profil bas. La plupart viennent couvrir discrètement les manifestations dans lesquelles ils ne sont plus les bienvenus. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
RFI, il est 15h06 à Paris et on va revenir à l'actualité des États-Unis et aux réactions provoquées par les dernières décisions et déclarations de Donald Trump. Réaction inquiète du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui est en ce moment à Davos où se tient le Forum économique mondial. Il dit s'interroger sur les volontés de Donald Trump en ce qui concerne l'OTAN et la sécurité de l'Europe. Le premier ministre allemand Olaf Scholz, lui, réagit aux menaces de taxes douanières que promet d'ériger Donald Trump. Il appelle à défendre le libre-échange face aux menaces de Donald Trump. Donald Trump, hier, parmi les autres décisions qu'il a prises, il y a la grâce de quelques 1500 personnes condamnées pour leur participation à l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, quand Donald Trump refusait de reconnaître sa défaite face à Joe Biden. Romain Lemaresquier.
So this is January 6th.
C'est pour le 6 janvier. Pour les otages, environ 1500 personnes qui seront complètement graciées. Cette scène s'est déroulée lundi soir dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Donald Trump signe le décret qui gracie plus de 1500 participants à l'assaut du Capitole. Nous espérons qu'il sorte cette nuit, détaille le 47e président des États-Unis, qui estime, je cite, que ces condamnés ont été traités très injustement. Les juges ont été absolument impitoyables. Une grâce qui démontre à ceux qui en doutaient la défiance de Donald Trump à l'égard du système judiciaire américain, comme le détaille dans un communiqué Nancy Pelosi, ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, qui n'hésite pas à parler d'insultes du système judiciaire. Une grâce dont vont bénéficier de nombreux membres de mouvements d'extrême droite, dont un certain Enrique Tarrio, chef des Proud Boys, qui avait été condamné à 22 ans de réclusion. Pour Nancy Pelosi, Donald Trump est, je cite, coupable d'abandon et de trahison des policiers qui ont risqué leur vie pour arrêter une tentative de subversion du transfert du pouvoir. Une vision des choses que ne partage pas le nouveau locataire de la Maison-Blanche qui continue de décrire cette journée du 6 janvier 2021 comme une journée d'amour et de débordement d'affection.
En France, à présent, la discussion du budget avec une mauvaise nouvelle pour l'aide française au développement. Son budget va diminuer encore plus que prévu, Victorien Villaume.
Un coup de rabot aux conséquences concrètes, s'indigne le sénateur socialiste Rachid Temal. Moins d'argent pour les organisations qui agissent sur le terrain, des programmes d'accès à l'eau et à la scolarisation réduits à néant.
On ne peut pas accepter qu'un budget qui reprend 1%, cette mission-là de l'aide publique au développement du budget global, c'est finalement 10% des économies.
L'aide au développement bénéficie en particulier au continent africain et la France aurait tout intérêt à préserver cette politique de solidarité, défend le sénateur écologiste Akli Mellouli.
D'un côté, on veut restreindre l'accueil des personnes et tout ça. Et de l'autre, on ne veut pas les aider à rester chez eux, à les développer. Madagascar, la Corne de l'Afrique, vous avez bien vu qu'en Somaliland, ça va bouger. Les guerres font bouger les peuples.
À droite, le sénateur Max Brisson reconnaît que l'AFD est un outil précieux, mais la questionne pour des pays comme la Chine ou l'Algérie.
J'étais au mois de septembre en Côte d'Ivoire et au Bénin, dans des pays amis. L'aide au développement est nécessaire, par exemple, au lancement du projet du musée des civilisations à Abidjan. Après, on peut se poser des questions sur l'agissement de